Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 juillet 2022. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran sanctionne 61 Américains pour avoir soutenu le groupe terroriste de l'OMK. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la fête aura dire, grâce aux réductions de peine de 2272 prisonniers avec le consentement du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. L'Iran sanctionne 61 Américains pour avoir soutenu le groupe terroriste l'OMK. Et puis Téhéran accueillera le 7e sommet tripartite du processus d'Astana pour la Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. À l'occasion des bienheureuses fêtes d'Al-Adha et de Radir-e-Rum, l'Ayatollah Khamenei, le leader de la révolution islamique, a accepté de gracier ou de réduire les peines de 2272 personnes parmi les personnes condamnées par les tribunaux publics et révolutionnaires, l'organisation judiciaire des forces armées et les sanctions gouvernementales. Dans une lettre adressée au leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Mohseni Ejei, a proposé l'amnistie ou la réduction des peines de ces condamnés dont les cas d'amnistie ont été examinés par la commission de pardon et d'amnistie. Cette proposition s'inscrivant dans l'application de la clause 11 de l'article 110 de la Constitution iranienne a été acceptée par l'honorable Ayatollah Khamenei. L'Iran islamique célèbre la fête d'Oradir, celle de l'accomplissement de la mission du noble prophète de l'islam et de la nomination du vénéré imam Ali, béni soit-il, comme son successeur et le premier imam des musulmans. L'Iran islamique célèbre la fête d'Oradir, celle de l'accomplissement de la mission du noble prophète de l'islam et de la nomination du vénéré imam Ali, béni soit-il, comme son successeur. Le sanctuaire sacré de la vénérée Fatemeh al-Masumeh à Rome, dans le centre de l'Iran et d'autres centres religieux et les rues autour du sanctuaire ont été décorés d'éclairs et de fleurs à l'occasion de l'arrivée de la Eid al-Radir. Diverses célébrations sont en cours à l'occasion de la fête d'Al-Radir dans tout l'Iran, y compris dans la ville religieuse de Rome, et les pèlerins iraniens et étrangers sont largement présents dans le sanctuaire sacré de la vénérée Fatemeh al-Masumeh. D'autres villes iraniennes sont pleines de célébrations et de joie à cette occasion et divers programmes culturels et religieux sont organisés. Le 18 Zilhadja de l'année 1443 de l'Égypte, soit le 18 juillet 2022, marque le jour de l'Aïd al-Radir, l'une des grandes fêtes musulmanes. Radir Khom est une zone entre la Mecque et Médine où le prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance, a déclaré publiquement l'imam Ali, béni soit-il, comme son successeur et le premier imam des musulmans, autrement dit le futur leader du monde islamique après sa mort. L'Iran sanctionne 61 Américains pour avoir soutenu le groupe terroriste l'OMK. Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis à jour sa liste sanctions visant les anciens et actuels responsables et individus américains qui soutiennent délibérément le groupuscule terroriste anti-iranien OMK, l'organisation des Mojahedine Khalq. Dans un communiqué publié samedi, le ministère a déclaré que 61 ressortissants américains avaient été classés sur sa liste noire, conformément à une loi iranienne intitulée « Lutte contre les violations des droits de l'homme et les actions aventuristes et terroristes des États-Unis d'Amérique dans la région », en particulier l'article 4 adopté par le Parlement iranien en août 2017. Les personnes inscrites sur la liste noire comprennent l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche John Bolton qui ont assisté aux réunions du groupe terroriste. Le sénateur Ted Cruz et le sénateur Bob Mendez font également partie des autres personnes blacklistées. La diplomatie iranienne a déclaré que les responsables américains ont soutenu le groupe terroriste l'OMK en participant à son rassemblement, en reconnaissant leurs actes et objectifs terroristes, ainsi qu'en lui fournissant un soutien politique et de propagande. Téhéran accueillera le 7e sommet tripartite du processus d'Astana. Le 7e sommet des pays garants du processus d'Astana sur la Syrie se tiendra à Téhéran ce mardi soir 19 juillet avec la participation des présidents iraniens Ibrahim Raisi et ses homologues russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan. Dans ce contexte, les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan arriveront à Téhéran lundi après-midi et une cérémonie d'accueil officielle aura lieu en privé pour eux au complexe culturel de Sadarabad en présence du président iranien Ibrahim Raisi. Il convient de noter que la première réunion du sommet des trois pays parrainant la paix syrienne s'est tenue sur l'île russe de Sotchi en 2017, suite aux négociations à Astana, au Kazakhstan, entre les représentants des parties au conflit dans le but de parvenir à un accord de cessez-le-feu durable et de résoudre la crise politique en Syrie. L'Iran affirme que les États-Unis tentent de fomenter des tensions et des crises en Asie occidentale en recourant à la politique ratée de l'iranophobie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ses remarques en réaction aux allégations avancées par le président américain Joe Biden, qui vient d'accuser l'Iran d'activités déstabilisatrices, selon ses mots, en Asie occidentale. Kanani a également critiqué Biden pour avoir soulevé de fausses accusations concernant le programme d'énergie nucléaire à des fins pacifiques et civiles de Téhéran, tout en ignorant des décennies de tromperies du régime israélien en tant que plus grand détenteur d'armes nucléaires dans la région. Se référant à des décennies de soutien aveugle et illimité du gouvernement américain au régime sioniste usurpateur, il a ajouté « Sans aucun doute, le gouvernement américain est le principal partenaire dans l'occupation continue de la terre palestinienne et de la ville de Rhodes, les crimes continus commis par le régime sioniste contre les Palestiniens et l'apartheid, la violation systématique des droits de l'homme contre les opprimés et la nation palestinienne », a-t-il dit. Lors d'un discours du sommet du Conseil des pays riverains du Golfe Persique, plus 3 à Jeddah, Biden a déclaré que les États-Unis resteraient un acteur actif, dixit, dans la région et ne partiraient pas pour laisser un vide à combler par la Chine, la Russie ou l'Iran. Selon la police israélienne, un officier a été tué après avoir été renversé par un Palestinien à un poste de contrôle dans les territoires occupés. L'incident s'est produit près de la ville de Ranana. La police a identifié le Palestinien comme un jeune de 17 ans dans la zone occupée de Ramallah en Cisjordanie. Il a été arrêté selon la source. Rien n'a filtré pour le moment sur les détails de l'incident. Les tensions sont montées récemment dans les territoires occupés alors que l'armée israélienne ne cesse de réprimer de manière sanglante les Palestiniens. Plus de 60 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes cette année, dont beaucoup lors des raids. Au moins 19 personnes ont également été tuées dans les territoires occupés en 1948 lors des attaques perpétrées par des Palestiniens depuis mars. Enfin, le Conseil politique suprême du Yémen a déclaré samedi qu'il rejetait tous les résultats de la visite du président américain Joe Biden dans la région qui affectent la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Yémen. Le mouvement yéménite d'Ansar Allah affirme que le sommet qui s'est tenu dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, auquel a participé le président américain Joe Biden, ne visait qu'à servir les intérêts du régime israélien. Réagissant à la tournée régionale de Biden, Mohammad Ali al-Houssi, haut responsable d'Ansar Allah, a déclaré que son mouvement populaire condamnait tout ce qui était sorti de cette réunion car il n'a été organisé que pour assurer les intérêts intéressés d'Israël et d'Arabie saoudite. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran sanctionne 61 Américains pour avoir soutenu le groupe terroriste de l'OMK. Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis à jour sa liste de sanctions visant les anciens et actuels responsables et individus américains qui soutiennent délibérément le groupuscule terroriste anti-iranien OMK, l'organisation des Moudjahidin Khalq. Dans un communiqué publié samedi, le ministère a déclaré que 61 ressortissants américains avaient été classés sur la liste noire conformément à une loi iranienne intitulée « Lutte contre les violations des droits de l'homme et les actions aventuristes et terroristes des États-Unis d'Amérique dans la région ». En particulier l'article 4 adopté par le Parlement iranien en août 2017. Les personnes inscrites sur la liste noire iranienne comprennent l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, qui ont assisté aux réunions du groupe terroriste. Le sénateur Ted Cruz et le sénateur Bob Mendez font également partie des autres personnes blacklistées. La diplomatie iranienne a déclaré que les responsables américains ont soutenu le groupe terroriste de l'OMK en participant à son rassemblement, en reconnaissant leurs actes et objectifs terroristes, ainsi qu'en lui fournissant un soutien politique et de propagande. Selon la déclaration, l'OMK a organisé et perpétré d'innombrables actes terroristes au cours des dernières décennies et tué des milliers de civils innocents, en particulier des femmes et des enfants. Malgré la nature terroriste et les actes de terrorisme atroces de l'OMK, ainsi que ses activités terroristes et militaires violentes, les États-Unis continuent de soutenir ce groupe honni en Iran et ont maintenu leur double standard et leur hypocrisie à cet égard, déplore le texte. Le ministère a souligné qu'à cet effet, toutes les autorités iraniennes compétentes doivent prendre les mesures appropriées pour une mise en œuvre effective des sanctions stipulées dans la loi du Parlement. L'Iran a déjà imposé des sanctions à l'ancien président américain Donald Trump, à l'ex-secrétaire d'État Pompeo et à plusieurs responsables actuels et anciens pour leur rôle dans des actions terroristes et anti-droits de l'homme. La législation vise à contrer l'aventurisme régional américain et les violations des droits de l'homme. Après sa fondation, il y a plus de 50 ans, le groupuscule terroriste l'OMK a lancé une campagne d'attentats à la bombe et d'assassinats en Iran. Sur près de 17 000 Iraniens tués dans des attaques terroristes au cours des quatre dernières décennies, environ 12 000 ont été victimes des actes terroristes de ce groupuscule sanguinaire. Très honni en Iran et par diverses classes et groupes de la société iranienne, l'OMK s'est actuellement basé en Albanie où il jouit de la liberté d'activité après s'être retiré de la liste des groupes terroristes par l'Union européenne et les États-Unis, respectivement en 2009 et 2012. Soutenue par l'Occident, l'OMK a organisé ces dernières années de nombreux grands événements auxquels ont participé de hauts responsables américains, israéliens et saoudiens, dont l'ancien sénateur américain John McCain, l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, John Bolton, l'ancien conseiller de l'ex-président américain Donald Trump, le sénateur Joe Lieberman et l'ancien directeur de l'agence de renseignement saoudien, Turki Ben Faisal Al-Saoud.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 16 juillet, on vous rejoint depuis la capitale iranienne, Téhéran. Le président Biden, le vieux président Biden, par son âge et ses gestes et l'image d'une Amérique vieillissante. Et c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, lors de son dernier discours, qui s'agit du premier discours après l'envoi de drones libanais et de la résistance dans la zone contestée de Karish. Cette zone dont Israël prétend être sa propriétaire, mais que le Liban conteste également. Alors, lors de son discours assez fracassant et clair, le secrétaire général du Hezbollah libanais a mis les points sur les i et a annoncé que la résistance était la seule force dont dispose le Liban afin de parvenir à reprendre le contrôle de son pétrole et de son gaz. Mais cette mise en garde fracassante du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, en fait, finira-t-elle par l'éclatement d'une confrontation entre le Liban, ou pour mieux dire l'axe de la résistance, et le régime sioniste dans les jours et les mois à venir? On en débat avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
La mise en garde sévère du Hezbollah. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a mis en garde mercredi contre une guerre si le Liban n'obtenait pas ses droits sur le gaz et le pétrole en Méditerranée, notant que ce mouvement est capable d'empêcher Israël d'extraire du gaz. C'est ce qui ressort du discours télévisé de Nasrallah diffusé par les médias locaux, dans lequel il a déclaré « La résistance est un atout pour le Liban dans les négociations sur la démarcation des frontières et elle a la capacité d'empêcher chez l'ennemi israélien d'extraire du gaz et du pétrole. » Nasrallah a déclaré « Si le but est d'empêcher le Liban d'extraire du pétrole et du gaz, personne ne pourra extraire du gaz et du pétrole ou le vendre, et ce, quelles qu'en soient les conséquences, considérant que la guerre est beaucoup plus honorable que le prolongement de l'effondrement économique. » Il a souligné que l'extraction du pétrole et du gaz assurera des milliards de dollars à l'État libanais, et c'est le seul moyen économique et financier de sauver le pays. Nasrallah a indiqué que ces deux mois constituent l'occasion en or dont dispose son pays, expliquant que le Liban peut empêcher l'ennemi israélien d'extraire du gaz et de le vendre à l'Europe, qui en a besoin en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Le torchon brûle entre le régime sioniste et le Liban, et plus précisément le Hezbollah libanais. À quoi devrait-on s'attendre dans les jours et les semaines à venir? On en débat avec nos deux invités d'honneur, Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales qui nous rejoint par Skype depuis Damas, et Rada Oubala, enseignante chercheure à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour et bienvenue, mesdames. On commence avec vous, Madame Idani, si vous voulez bien. Bonjour et merci de nous avoir accordé votre temps pour ce débat. À votre avis, Madame Idani, à quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir en ce qui concerne ces tensions qui montent en crescendo entre le Hezbollah et le régime sioniste, surtout la question pétrolière?
Alors, bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe Presse TV, à votre invité Merci de votre invitation et bonjour, un grand bonjour à tous les auditeurs et spectateurs de Presse TV.
Merci à vous.
Et je vous souhaite aussi une bonne fête, bien que tardivement, mais c'est la première fois qu'on se rencontre après la fête. Hein.
On vous souhaite également une très bonne fête, Madame Idani. Merci.
Oui, merci beaucoup. Donc, à quoi peut-on s'attendre? Mais je crois que de toute façon, le Samahat Cheikh Nasrallah l'a annoncé et le dit haut et fort et de manière très persuasive et même déterminée. Que de toute façon, il est hors de question qu'on empêche le Liban d'exploiter ses ressources, ça c'est un premier point, et qu'il est hors de question donc d'accepter qu'on n'exploite pas nos ressources, hein, qui sont des milliards de dollars qui sont enfouis dans nos mers, dans nos eaux, alors que le peuple vit des difficultés existentielles au niveau du quotidien qui vont jusqu'à l'effondrement, jusqu'à la mort de faim. Samahat Cheikh Nasrallah affirme que de toute façon, nous empêcherons aussi empêcheront quiconque d'exploiter son patron gaz dans la région. Une manière déterminée pour dire on s'oppose effectivement au vol de nos ressources et à l'empêchement, à notre empêchement d'utiliser nos ressources. Et troisième point, en fait, clairement, ceci s'adressant à tous les Libanais, s'adressant aussi à l'ennemi israélien. Vous savez donc déjà les drones qui ont été envoyés ont montré la possibilité d'aller très loin et de survoler même les plateformes d'exploitation en pleine Méditerranée. Que ces drones étaient un message qui montre non seulement notre capacité, mais là, elles sont arrivées, elles ont pris des photos, mais en plus, elles peuvent porter d'autres choses et nous pouvons en envoyer des milliers comme ça. Ça veut dire qu'elles peuvent porter des explosifs et détruire effectivement toute plateforme qui vise à exploiter le pétrole de la Méditerranée, dans la Méditerranée, alors que les Libanais sont interdits d'exploiter leur propre pétrole. Ce message, il est double, il n'est pas seulement aux Israéliens, mais il est aussi aux Américains et à Hochstein, qui est l'envoyé des Américains pour discuter justement des frontières. Je crois qu'aujourd'hui, la question des frontières est devenue plutôt, est passée au second plan. Ce qui est au premier plan aujourd'hui, c'est à la fois la visite de Biden qui a assuré Israël de son soutien, mais qui aussi ne fait pas peur au front de la résistance, et aussi c'est ce point qui est très important, mais aussi aux Israéliens qu'ils cherchent aussi à provoquer ou à faire quelque chose sur le puits de Karish et sur les frontières. Donc en fait, une affirmation, je dirais, haut et fort pour montrer la détermination à exploiter notre pétrole et un message aussi aux Libanais, leur disant, écoutez, la force de la résistance est la force de tout le monde, profitez-en aussi pour faire valoir nos droits, mais aussi pour avoir une unité nationale autour d'un projet de prospérité au lieu d'être dans un projet d'effondrement.
Merci pour vos explications, Madame Idani. Alors, nous avons également Dr. Rada Oubala, enseignante-chercheure à l'Université islamique du Liban, qui nous rejoint depuis Beyrouth. Je vous dis bonjour et bienvenue à notre débat, Madame Oubala.
Bonjour à elle.
Merci, ouais. Madame Idani. Alors, comment interprétez-vous le discours de Seyed Hassan Nasrallah, Madame Oubala, dans la conjoncture actuelle avec Madame Idani l'a annoncé, l'a évoqué, cette visite moyen-orientale de Biden? Comment pourrait-on interpréter tout ceci?
Bon, d'abord, bonjour à Presse TV, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV, et bien entendu, bonjour à votre invité depuis Damas.
Merci.
Alors, concernant justement le discours du secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, on pourrait résumer son discours en 6 points. Alors tout d'abord, Hassan Nasrallah a précisé le caractère fatidique de la bataille,
oui,
en affirmant très clairement qu'il y a ceux qui veulent que le Liban meure de faim, et en face, il y a ceux qui se battent pour leur gagne-pain, et que la résistance est prête à s'engager dans une bataille, peut-être qui pourrait évoluer en une guerre, qui aura bataille qui aura des conséquences similaires sur toutes les parties, qu'il s'agisse de l'ennemi israélien lui-même ou des pays bénéficiaires du programme énergétique en Méditerranée. Deuxièmement, lorsqu'un parti comme le Hezbollah annonce qu'il fait face à un enjeu fatidique et que l'explication vient d'une personnalité comme Saïd Hassan Nasrallah, sur les obligations de la résistance envers son peuple et non envers les forces politiques, l'affaire est liée à des choix stratégiques qui signifient, oui, simplement que la résistance est en état de préparation opérationnelle pour mener une guerre à grande échelle et non pour mener des opérations locales afin de garantir les droits du Liban et en théorie et en pratique. Troisièmement, la référence que Saïd Hassan Nasrallah a effectuée concernant les cibles qu'il compte viser et qu'il surveille au large des côtes de la Palestine occupée, et sa déclaration explicite dans laquelle il a imposé une nouvelle équation, à savoir au-delà de Karish, et bien en fait, elle nous rappelle, il y a quelques mois, quand Saïd Hassan Nasrallah, au sommet de la crise économique du Liban, a lancé un discours en s'adressant directement aux États-Unis et en disant « Il n'est pas question qu'on vous permette de nous tuer. » Et il a répété 3 fois « On vous tuera, on vous tuera, on vous tuera. » Et justement, ce discours rejoint le discours qu'il a fait il y a 6 mois. Donc, c'est comme s'il traduisait une promesse. Donc, cela signifie que la résistance a mis toutes ses unités, et là aussi, il a précisé, en disant qu'il a des unités maritimes, terrestres et aériennes, dans un état de préparation pour mener une large bataille. Quatrièmement, il a bien signifié aussi que cette confrontation entre la résistance et l'ennemi au large des côtes du Liban et de la Palestine signifie simplement l'abandon de la sécurité de tous les projets d'exploration et d'extraction d'énergie à travers les Méditerranées orientales. Autrement dit, la région méditerranéenne deviendra un théâtre d'opération. Okay? Quatrièmement, oui, le secrétaire général a été très clair sur le fait que les opérations de survol des drones n'étaient qu'un message et que celui qui ne croit pas que ce n'est qu'un simple message, qu'il attend les prochaines semaines, au cas où l'intransigeance de l'ennemi se poursuivait. Et donc, pour la première fois, et ça il faut bien le souligner, nous avons une force politique libanaise, la résistance, qui est la branche armée du Hezbollah, qui a non seulement lancé un ultimatum à l'ennemi israélien, mais aussi aux États-Unis, mais en plus, elle a menacé de guerre. Or, dans toute l'histoire de l'entité sioniste, jamais il y a eu un État qui avait menacé de guerre l'entité sioniste. Et cela a été bien enregistré, voire rapporté par les médias israéliens. Cinquièmement, il convient peut-être d'attirer l'attention des intéressés sur le fait que la résistance a sa propre littérature. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le Hezbollah est un parti doctrinal. Et donc, quand Saïd Hassan Nasrallah se réfère au début de son discours par un verset coranique dans lequel qui est la sourate Al-Hajj, dans lequel il dit, enfin, il récite un verset coranique qui dit « Il a été autorisé à ceux qui sont combattus de se défendre pour avoir été lésés. Allah est infiniment capable de les faire triompher. » C'est une indication claire et un message clair que la résistance agit sous autorisation divine. Et donc, elle a eu le feu vert de la part du guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei.
Oui.
Et sixièmement, enfin, Saïd Hassan Nasrallah a confirmé les premiers résultats de l'opération du processus des négociations en disant clairement que la question des négociations n'est plus liée à celle des frontières maritimes, comme l'a bien souligné votre invité, mais plutôt à ses droits. Et là, il faut bien souligner quelque chose. C'est que quand le Hezbollah veut défendre la frontière du Liban, ou bien il est en train de parler de la cause de la Palestine qu'il faut la libérer, là, les Libanais sont bien entendu divisés. Mais quand il s'agit, c'est-à-dire de parler, de défendre les ressources pétrolières du Liban, là, on parle de la légitimité des ressources pétrolières, qui est beaucoup plus forte,
oui,
et qui unit les Libanais que la légitimité de la sécurité qui peut être liée à celle de la sécurité de la région, etc., etc. Voilà.
Merci beaucoup pour votre décryptage, Madame Oubala, et les réponses très détaillées. Alors, Madame Idani, lors de son discours, le secrétaire général du Hezbollah libanais avait annoncé qu'Israël était incapable de mener des opérations terrestres contre le Liban, le territoire libanais, et qu'il fondait son seul espoir sur des opérations aériennes. Mais à votre avis, vraiment, est-ce que Israël est capable de mener des opérations même aériennes contre le Liban?
Écoutez, je crois que Israël se tient sur un pied. Ils ont très peur, en fait, de toute opération et de toute confrontation avec le Hezbollah. On peut voir qu'au niveau des frontières libanaises, c'est un petit peu le vide. Et c'est la raison pour laquelle ils font de plus en plus appel au secours du côté américain. Ils demandent des armes de plus en plus performantes, etc. Donc, en fait, la peur qu'ils ont de l'ensemble de l'axe de la résistance, aussi bien la résistance palestinienne à l'intérieur et du Hezbollah au Liban, elle est importante. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils s'équipent, ils s'équipent de toutes parts avec des détecteurs laser au niveau du ciel de Tel Aviv, en fait, pour remplacer la voûte d'acier là qui a montré toute sa défaillance. Ils sont en train de remplacer, de beaucoup aussi agir sur les forces maritimes. À mon avis, ils s'équipent et ils se préparent effectivement pour une confrontation très importante, très dure avec le Liban, avec l'ensemble de l'axe de la résistance. Donc, je voudrais aussi insister sur le fait que le Hezbollah n'est plus seul, il est beaucoup plus fort, effectivement, il fait partie de cet axe de la résistance, voire même il est un peu il représente la direction au niveau de l'axe de la résistance. Et donc, aujourd'hui, il y a eu même Khaled Meshaal qui était là, qui est le représentant du Hamas, un des représentants du Hamas, qui affirme aussi sa volonté de soutien qu'il est prêt, effectivement, aussi à une confrontation, que le Hamas est prêt à une confrontation si jamais le Liban est attaqué. La Syrie, de fait, toujours aussi très présente, puisque de toute façon, elle a toujours été aussi agressée, et depuis 11 ans, ça n'a pas arrêté du côté israélien. Donc, en fait, plus les forces de l'armée libanaise aussi, elles sont, malgré le fait que Israël et certains alliés à Israël au Liban ont voulu créer une sorte de schisme entre l'armée libanaise et la résistance. Bon, mais l'armée libanaise reste toujours aux côtés de la résistance, en fait, de Hezbollah. Mais aussi le président de la République, en fait, le parti du président de la République et toutes les forces, tout le front de soutien à la résistance au Liban, qui représente quand même beaucoup plus que la moitié des Libanais. Donc, en fait, aujourd'hui, on va effectivement vers une confrontation si l'agression israélienne continue et si cette volonté de tirer, je dirais, le pétrole de la Méditerranée par les Israéliens et derrière eux les Américains. Donc, effectivement, on peut dire qu'on va certainement faire une guerre de confrontation pour le pétrole en Méditerranée et que le Liban en fait partie du poste avancé. Mais je voudrais dire quand même aussi que ce pétrole qui est en face de Gaza est de pétrole palestinien et que les Palestiniens, aujourd'hui, ils sont complètement marginalisés par rapport à leur propre pétrole et à leur propre richesse. Et Israël se trouve complètement dans une illégalité totale vis-à-vis de la loi internationale parce que c'est un occupant et tout occupant n'a pas le droit d'exploiter les ressources et les ressources minières en fait du pays occupé sans la participation de sa population et sans l'autorisation de sa population et même la participation de ce pays. Donc en fait il y a une double illégalité et vis-à-vis de la loi internationale et vis-à-vis de toutes les lois dans laquelle se trouve Israël. Et donc, si on va vers une guerre, de toute façon, nous sommes prêts en tant que Libanais, en tant que Syriens, d'y aller. Voilà.
Merci, Madame Idani, Madame Oubala. Merci beaucoup. Madame Oubala, nous avons 2 minutes devant nous. Alors, on vous écoute le mot de la fin, mais à votre avis, est-ce que cette visite de Biden au Moyen-Orient pourra-t-elle changer quelque chose dans la donne de la région, surtout en ce qui concerne ces tensions entre l'axe de la résistance d'une part et le régime sioniste de l'autre part?
À mon avis, la visite de Biden avant le discours avait un certain impact, oui. Mais après le discours de Saïd Hassan Nasrallah, non. Parce que je pense que les trois objectifs que l'administration de Biden souhaitait réaliser à travers la visite, c'est d'une part, il s'agissait de pouvoir convaincre l'Arabie Saoudite d'augmenter la production de son pétrole pour assurer le manque de gaz et de pétrole pour l'Union européenne et pour les États-Unis d'une part. Et d'autre part, il s'agissait de garantir que ce gaz et ce pétrole viennent aussi de l'entité sioniste. Donc que la question de la vente du gaz et du pétrole à partir du mois de septembre puisse arriver sans problème à l'Union européenne. Et enfin, bien entendu, la visite de Biden en Palestine occupée, pour plus exactement en Israël, entre guillemets, c'est surtout pour se préparer pour garantir des voix du lobby sioniste avant le 8 novembre concernant les élections mid-term qui vont avoir lieu prochainement aux États-Unis. Or, avec le discours de Saïd Hassan Nasrallah, il a complètement saboté il a presque, je dirais, complètement mélangé les cartes, oui. Puisque la question justement de garantir la sécurité justement du pétrole et du gaz est devenue priorité et tous les autres objectifs sont devenus secondaires. Et donc, il n'était pas dans l'ordre du jour, justement, de l'administration de Biden de discuter de la question de démarcation maritime de la frontière palestino-israélienne. libanaise, oui. Encore plus la question de l'exploration du gaz côté libanais.
Oui. Merci beaucoup. On était avec Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, Rada Oubala, enseignant-chercheur à l'Université islamique du Liban. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.
Afrique économique.
Bonjour et merci d'avoir rejoint notre émission de cette semaine Afrique économique. La République centrafricaine a officiellement procédé au lancement de son grand projet de crypto-monnaie baptisé Sango. C'était ce dimanche 3 juillet 2022 dans un live de plus d'une heure et demie où en tour à tour défilait le président de la République Faustin Archange Touadéra, de nombreux acteurs publics et experts de la technologie blockchain. Premier intervenant, le président de la République, M. Touadéra, qui laisse entendre que le lancement de Sango Coin est une nouvelle page qui représente un pas ferme sur la voie qui ouvre d'incroyables opportunités pour la République centrafricaine. Pour nous, la vision est parfaite, explique Faustin Archange Touadéra. Nous n'avons plus de temps à attendre. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient dans un système qui nous ne donne pas la possibilité d'être performants. Notre solution, c'est de repenser notre philosophie économique. C'est ce que nous avons fait et la route qui s'ouvre devant nous fait entrevoir un grand succès pour le peuple centrafricain, a déclaré le président Touadéra. Le président Touadéra explique que la blockchain va dépasser les normes conventionnelles et offrir la possibilité de prospérer économiquement. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et le progrès. La monnaie numérique de la RCA ne va pas seulement être une simple crypto-monnaie. La réflexion sur la tokenisation des matières premières comme l'or, le diamant, le fer, le lithium de la RCA est en cours. Le président a promis une législation claire sur ce sujet. Le Sango Coin sera l'accès direct à nos ressources naturelles pour le monde entier, indique le président de ce pays de l'Afrique centrale riche en or et en diamants. Nous pensons avant tout à la matière dont il changera la vie de nos citoyens et la façon dont nous réussirons à créer une économie stable, forte et prospère. Il convient de faire ce qui est nécessaire pour le bien de tous, en gardant à l'esprit les générations futures à qui nous devons laisser un héritage significatif. Sango Coin sera la monnaie de la nouvelle génération pour la République centrafricaine. Sango signifie que nous parlons enfin le langage de l'argent. Pour le président de la RCA, l'alternative à l'argent liquide est la crypto-monnaie. Son pays est d'ailleurs devenu le premier État africain à donner cours légal au Bitcoin en avril 2022. Le président avait d'ailleurs déclaré sur Twitter « Les mathématiques sont le langage de l'univers, le Bitcoin est la monnaie universelle ». Réouverture des frontières de la province de Lunda Nord, séparant l'Angola et la RDC. L'Angola a entamé la réouverture de ses frontières avec la RDC, avec qui elle entretient des rapports commerciaux historiques. L'Angola a réouvert le week-end dernier les frontières entre les provinces de Lunda Nord, au nord du pays, et Kasai Central, République démocratique du Congo. L'événement qui s'est tenu au poste frontalier de Tchikolondo consacre également la réouverture officielle de toutes les autres frontières terrestres et fluviales existant sur la bande des 770 km séparant les deux provinces. Les frontières avaient en effet été fermées depuis environ 2 ans en raison de l'apparition de la pandémie de la COVID-19. Ces frontières sont des passages stratégiques pour l'approvisionnement de la RDC, qui, ne disposant pas encore d'un port en eau profonde, fait transiter une partie importante de ses flux commerciaux par les plateformes portuaires et logistiques de l'Angola. Ce dernier achète en retour les produits agricoles, notamment les productions céréalières. Selon Ernesto Muangala, gouverneur de Lunda North, les recettes du poste frontalier de Tshikolondo ont une part non négligeable dans les revenus de la province. Le FMI presse les créanciers de 3 pays africains à conclure des accords sur la restructuration de la dette. Alors que 60% des pays à faible revenu courent un risque élevé de surendettement, voire sont déjà surendettés, le Tchad, la Zambie et l'Éthiopie sont les seuls pays à avoir demandé la restructuration de leur dette. Le Fonds monétaire international FMI a appelé le jeudi 14 juillet les comités de créanciers du Tchad, de l'Éthiopie et de la Zambie à conclure rapidement des accords avec les autorités de ces pays sur la restructuration de la dette afin de faciliter le déblocage de programmes de financement. Le FMI a progressé dans ses discussions avec le Tchad sur un programme de financement, mais il faut que ce pays arrive à conclure un accord sur la restructuration de sa dette avec ses créanciers pour débloquer les fonds, a déclaré le porte-parole du FMI, Jerry Rice, lors d'un point de presse tenu à Washington. Alors que 60% des pays à faible revenu courent un risque élevé de surendettement, voire sont déjà surendettés contre moins de 30% en 2015, selon les données du FMI, le Tchad, la Zambie et l'Éthiopie sont à ce jour les seuls pays à avoir demandé la restructuration de leurs dettes par l'intermédiaire de l'initiative de suspension du service de la dette ISSD. Co-présidé par la Chine et la France, le comité officiel des créanciers de la Zambie avait tenu sa première réunion le jeudi 16 juin dernier. Une deuxième réunion de ce même comité est prévue d'ici fin juillet selon des sources proches du dossier cité par l'agence Reuters. Le Tchad avait conclu un accord avec ses créanciers publics pour restructurer sa dette extérieure au début de l'année 2021. Mais cette opération ne peut être mise en œuvre que si un accord est trouvé avec un créancier privé jusqu'ici réticent à adhérer à ce processus, en l'occurrence le groupe Glencore, sur les 3 milliards de dollars de dette extérieure que ce pays d'Afrique centrale cherche à restructurer. Le tiers est dû à ce négociant de matières premières basé en Suisse. Au Ghana, la société publique du pétrole GNPC vient de lancer les travaux de démantèlement de la plateforme Lui, située sur le champ pétrolier de Saltpond, un site producteur marginal de brut depuis 1978. Le démantèlement de la plateforme avait été annoncé en 2018. Dans l'intervalle, le processus a connu une longue planification et a été soumis à une étude de faisabilité qui a été approuvée par le ministère de l'Énergie. Les activités de démantèlement et de déclassement des sites pétroliers inopérants revêtent un caractère crucial dans le contexte actuel qui appelle à plus de responsabilités environnementales de la part des compagnies du secteur. Selon des informations fournies par la GNPC qui financera les activités, les travaux devraient durer 12 mois et seront exécutés par une entreprise locale. Le démantèlement de la première plateforme pétrolière du Ghana est nécessaire pour garantir que l'écosystème marin autour de la zone de Saltpond retrouve son état antérieur à l'obtention de la licence, a commenté Opoku Ahwenhi Danka, PDG de la GNPC. En Éthiopie, l'exportation de produits manufacturés a enregistré une hausse de 100 millions de dollars en une année. L'exportation de produits manufacturés par l'Éthiopie a enregistré une croissance de 100 millions de dollars durant l'année fiscale qui vient de s'achever. L'information émane du ministre éthiopien de l'Industrie, Melako Alebel, cité par l'agence éthiopienne d'information dans une publication le mercredi 13 juillet. La note révèle que les revenus engrangés grâce à l'exportation des produits manufacturés ont atteint 500 millions de dollars au cours de la période. Selon le ministre, une révision de la politique a été finalisée afin de renforcer les opportunités pour l'exportation de produits industriels. Des opportunités sont également identifiées pour l'exportation de produits industriels dans le plan de développement sur une décennie, fait savoir la note d'information. Avec une croissance de 6,3% enregistrée au cours de l'exercice 2020-2021, l'Éthiopie est l'économie à la croissance la plus rapide de la région d'Afrique de l'Est, selon les données de la Banque mondiale. Cette reprise du secteur de la manufacture est un bon signe pour Addis Abeba, qui a connu durant les exercices 2019-2020 et 2020-2021 un ralentissement de la croissance de l'industrie et des services en raison de la COVID-19. Le gouvernement éthiopien a lancé en 2020 un plan de développement décennal visant à soutenir la croissance et faciliter la transition vers une économie davantage axée sur le secteur privé.
Thank you.